scieries s'éteignent. Et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Le début était un petit peu apocalyptique, comme vous avez pu vous en rendre compte. Nous sommes le 30 mars 2017, il est 19h02 à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure d'un nouveau Canu Info avec l'équipe du jeudi, un petit peu différente cette semaine, puisque nous sommes trois. Nous avons un invité de marque à la technique, Jean-Yves de l'émission La Causerie, qui vient dépanner
aurez reconnu son lancement.
Le technicien habituel, voilà, vous avez reconnu le lancement de la causerie.
C'est la patte Jean-Yves. Moi, j'aime beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on t'invite.
C'est pas sympa, mais c'est vrai.
Donc voilà, il y a bien sûr toujours Delphine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors, nous allons faire une petite intro, et dans cette intro, je vais vous parler des semaines qui suivent. Les semaines se suivent, et oui, effectivement, et nous avons toujours de la violence policière, même si, originalité cette fois, c'est un homme d'origine asiatique qui en a été victime à Paris dans le 19e. Alors, les semaines se suivent et le racisme est toujours bien présent. Les réponses tardent à venir, si ce n'est sous l'angle communautariste, ce qui ne résout bien évidemment rien. Ainsi, nous avons appris par une étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qu'il y avait toujours du racisme en France, que la hiérarchie raciste est toujours à peu près la même. Les Roms sont les plus détestés et les plus victimes du racisme en France, suivis des Juifs, des Arabes, des Noirs et des Asiatiques. Alors cette Commission nationale consultative des droits de l'homme dit aussi que les actes racistes ont baissé en 2016, ce qui pourrait nous rassurer, mais malheureusement cette baisse n'est pas suffisamment significative pour améliorer la vie des personnes potentiellement victimes de ce racisme. Donc oui, les semaines se suivent aussi chez les socialistes et les traîtres socialistes qui se rallient toujours encore et de plus en plus au libéral Macron qui ressemble entouré de plus en plus d'une faune très à droite quand même. Alors certes, cette semaine, c'est Valls, c'est-à-dire le dernier, le plus célèbre des traîtres qui est allé soutenir le candidat qui marche là et qui se met finalement du côté de Perben, de Renaud Dutreil, enfin des gens comme ça qui sont issus de la droite conservatrice. Donc voilà, Macron est bien militant de droite, on le savait déjà. Alors oui, encore et toujours, les semaines se suivent et la FNSEA continue sa propagande mortifère de défense de l'agriculture polluante et destructrice. Ainsi, aujourd'hui, 7 candidats à l'élection présidentielle ont pris la parole devant les quelques 1500 responsables syndicaux de cette confédération agricole productiviste. Donc ces candidats irrespectable au point de collaborer avec ce syndicat qui prône toujours l'utilisation de produits cancérigènes, dangereux, mortels pour la nature et les êtres vivants, sont, je cite, Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade et François Asselineau. Quel beau collabo quand même. Et oui, les semaines se suivent Et à nouveau, Radio Canut a été attaqué en début de semaine. La vitre, la grande vitre a été à nouveau défoncée. On imagine bien que ce ne sont pas des militants d'extrême gauche qui l'ont fait, mais plutôt d'extrême droite ou de droite, on ne sait pas. Bien évidemment, ils n'ont pas le courage non plus d'assumer leurs actes. On en est là, oui, et oui, les semaines se suivent et se ressemblent, comme vous avez pu le rendre compte par cette brève introduction. Malgré tout ça, nous allons faire un Canut Info différent de la semaine dernière, car nous avons à nouveau des infos, nous, différentes. Donc ce soir, nous parlerons d'abord des luttes. Alors certes, il y a des luttes dont on a déjà parlé, le centre Pompidou et d'autres. Nous parlerons aussi du travail qui continue de tuer. Nous parlerons de nos ennemis, les profiteurs, les multinationales et autres entreprises. Nous parlerons un petit peu de Tunisie cette semaine. Nous parlerons des banques. Nous parlerons peut-être de Mathieu Pigas. Nous parlerons peut-être un peu de radioactivité. Enfin voilà, tout ça dans ce Canut Info. Et tout de suite, c'est Delphine qui ouvre.
Oui, parce que alors, travailleurs, travailleuses, les semaines se suivent. Et il y a toujours des gens en lutte. Et oui, hein, c'est perpétuel face au patronat. Comme tu le disais, Laurent, effectivement, je vous ai déjà parlé début mars du centre Pompidou. La semaine dernière, je vous parlais du musée Rodin. Nos musées vont bien, globalement, en France. Une nouvelle grève a été lancée au centre Pompidou lundi. Le musée est toujours en grève ce jeudi. Il faut savoir que mardi, c'est la journée de fermeture du musée. Donc on va l'enlever un petit peu du comptage. Mais enfin, quand même, ça fait depuis lundi, ça tient. Comme d'habitude, on a un petit message assez succinct sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Alors, comme je vous l'avais raconté assez brièvement à l'époque, le personnel est en grève parce qu'il refuse tout simplement de devenir fonctionnaire, alors que depuis plusieurs décennies maintenant, les travailleurs et les travailleuses du centre Pompidou sont des contractuels. Alors vous allez me dire, à la base, c'est plutôt bien de passer titulaire, hein, il y a plein de syndicats qui se battent pour éviter que les gens restent titulaires pendant des années.
Non, restent précaires pendant des années, deviennent titulaires. Oui.
Oui, pardon, excusez-moi. Oui, ils sont donc contractuels. Mais le problème, c'est qu'avec ces années et ces années de lutte au centre Pompidou, ben les travailleurs et les travailleuses ont obtenu des salaires meilleurs que ceux de la fonction publique pour une partie d'entre eux et d'entre elles, des conditions de travail un peu différentes, tout ça qui n'aurait pas pu se négocier dans le cadre de la fonction publique. Et donc, ben on comprend bien que ces travailleurs et ces travailleuses du centre Pompidou n'ont pas envie de régresser. Il faut bien l'entendre. Donc c'est toujours sur ce sujet-là que le personnel du centre Pompidou se bat. Je vous rappelle que le centre Pompidou c'est 3 millions de visiteurs, donc c'est pas juste une petite grève symbolique, surtout quand ça dure, excusez-moi, depuis lundi et que nous sommes jeudi, je vous le rappelle. Donc ils tiennent bon, hein, sur place c'est plutôt bien. Alors le syndicat majoritaire là-bas c'est FO, qui a l'air plutôt bien engagé dans la bataille, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en ce moment, il y a une exposition autour de Cy Twombly et de Joseph Koudelka. Donc, c'est des belles expositions, mais tant pis, nous, on préfère la grève. Les artistes attendront, en tout cas, on les soutient. Et puis, je vais continuer avec les travailleurs et les travailleuses. Oui, cette semaine, on a décidé de commencer avec les luttes. Je vais vous parler de cette grève chez Newrest. Newrest, c'est un prestataire de la SNCF. Qui intervient dans les wagons-barres TGV. Alors, il faut bien se rendre compte que Newrest, c'est un gros machin. Actuellement, dans la presse spécialisée économique, on parle beaucoup de Newrest au Maroc, hein, qui fait un petit peu comme ça, des beaux effets, on a des beaux papiers en ce moment. Donc c'est pas pour vous dire que c'est pas juste un truc franco-français, un petit peu de chez nous, pas du tout. Alors c'est une intersyndicale CFDT, CGT, Sud et FO, c'est toujours bien quand les syndicats arrivent à se mettre d'accord. Vous serez d'accord avec nous hein, là-dessus quand même, il faut le dire que c'est plutôt bien, ça a plus de force aussi évidemment dans le combat. Qui a donc cette intersyndicale a lancé une grève. Il faut savoir que 100% des employés basés dans les gares de Lille, Lyon, Marseille et Montpellier étaient en grève, ça c'est les chiffres des syndicats. À Paris, 60% à la gare de Montparnasse, 70% à la gare de Lyon et 30% à la gare de l'Est. Donc c'est quand même des gros chiffres de grévistes. A priori, moi j'ai un peu fait le tour de la presse, Newrest ne veut pas communiquer. C'est-à-dire qu'on se demande même si de fait qu'ils aient eu une grève, il n'y a personne qui répondait au téléphone. Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, personne n'est joignable, personne n'a répondu, donc il y a des assemblées générales effectivement qui sont aussi montées hein, pour savoir jusqu'où la grève va aller. A priori, ils sont partis jusqu'à lundi prochain. Il y a eu un communiqué qui est paru. Il y a les termes ras-le-bol général qui est utilisé. Il y a des problèmes alors sur les conditions de travail qui se dégradent. Ça, c'est souvent, ça revient, ça paraît presque finalement facile à dire. Les conditions de travail se dégradent. Ben, moi, je peux vous dire que c'est quand même assez symptomatique de ce qui peut se passer dans les boîtes. Si aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une grève, vient avant les hausses de salaire, les conditions de travail. Et puis, a priori, il y a un management qui se fait par la répression. Les salariés en ont marre. Il faut savoir que quand il y a eu des arrêts maladie, au retour, les salariés sont convoqués. On leur demande de s'expliquer. C'est même arrivé avec des gens qui étaient en accident du travail, quand même, sur le retour, globalement, ou fait engueuler, d'avoir eu un souci de santé ou d'avoir eu un accident du travail. La dernière grève, elle remonte à février 2015. Ça avait duré une semaine, donc c'était quand même aussi une bonne grève. Pour vous donner juste une idée, c'est pour aller plus loin dans New Rest, pour vous monter un petit peu quand même le truc, c'est 1400 personnes en France en salariés, donc c'est quand même une belle boîte. 48 pays de présence, 31 000 pratiquement collaborateurs, entre 30 000 et 31 000. Il y a un chiffre d'affaires en hausse, hein, ça se passe bien. Donc, quand vous en êtes à faire grève pour des conditions de travail et un management qui se fait par la répression, c'est que les salaires, finalement, c'est pas tant le problème, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas.
Eh ben, on va rester dans le monde du travail et on va parler de la mortalité au travail. Alors, je vais vous redonner comme ça quelques petits chiffres, des fois que vous ayez oublié, ou quelques petits rappels. 1er octobre à Paris, un ouvrier meurt sur le chantier Lancel, place de l'Opéra, écrasé par plusieurs packs de verre. Le 6 octobre, quelques jours plus tard, un apprenti bûcheron de 15 ans meurt écrasé par un arbre. Le 18 octobre, dans le Bas-Rhin, un bûcheron de 20 ans écrasé lui aussi par un arbre. Le 25 octobre, à Cordemais, dans le 44, un ouvrier meurt dans une centrale EDF après une chute d'un échafaudage. Le 26 octobre, à Longeron, un ouvrier du bâtiment meurt après une chute de 10 mètres. Le 9 novembre, à Montpellier, un ouvrier meurt après une chute depuis un pont en construction sur le chantier du doublement de l'autoroute A9, etc., etc. Je pourrais en faire, j'en ai bien sûr une énorme liste. Chaque année, en France, on déplore 500 morts au travail, ce qui est relativement important quand on réfléchit un petit peu. Alors, c'est important non pas par rapport au nombre de salariés, mais par rapport au nombre de personnes qui meurent, hein, puisque ce sont 500 morts quasiment évitables. Alors, on peut toujours dire que tous les accidents sont évitables. C'est ce que souvent déclarent les syndicalistes ou les gens qui sont qui accusent le patronat. Alors, c'est presque vrai, parce que effectivement 90 ou 95% des accidents sont évitables. Il reste les choses un petit peu bêtes. On se prend les pieds à un endroit où il faut pas. On fait un malaise. Parce que alors là, par contre, c'est difficilement évitable, quelqu'un qui fait un malaise. Mais grosso modo, on va dire 95% des accidents sont dus aux conditions de travail, aux employeurs. Hein, c'est ce qui ressort des derniers chiffres qui nous sont donnés, ce qui veut dire que les professionnels et les employeurs ne font pas forcément totalement le travail de prévention sur les risques professionnels. Alors, il faut relativiser tout ça, ça a beaucoup diminué. Hein. Avant, dans les années 70, on était à peu près à 2000 morts par an. On est passé à 500 morts. Pour ceux qui travaillent dans l'industrie notamment, ces 15 dernières années, effectivement, il y a eu un énorme progrès sur la sécurité. On affiche le nombre d'accidents du travail pour sensibiliser. Enfin voilà, il y a plein de choses de fait. Même si tous les accidents du travail ne sont pas déclarés, c'est pareil parce que ça coûte cher aux entreprises, donc il y a des moyens de pression sur les salariés. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal en progrès. On notera quand même que en dehors de ces accidents du travail, ce n'est pas la totalité des morts au travail. Malheureusement, il y a beaucoup plus de morts que ça dues au travail, notamment toutes les personnes qui meurent à cause de leur travail, mais pas sur leur lieu de travail directement. Il faut penser à tous ceux qui meurent de maladies professionnelles. Alors, on pense au cancer, bien évidemment, mais il y a aussi ceux qui meurent dans un accident de voiture ou de trajet en allant à leur travail, hein, puisque s'ils restaient chez eux, ils seraient peut-être pas morts. Grosso modo, on estime en France à 1200, en fait, le nombre de travailleurs et de travailleuses qui meurent par an. Bon, depuis 2000, ça fait à peu près 20 000 morts. Donc, c'est relativement important. Alors, malgré que ce soit important, malgré qu'on ait à nouveau ces chiffres, hein, qui sont le bilan de l'année 2016, eh ben, ça apparaît pas dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle française. Alors, ça apparaît un petit peu, en fait. Et on l'a vu, notamment avec Emmanuel Macron, grand défenseur du travail, on le sait, et pas du travailleur, puisqu'il a envoyé un tweet sur le compte pénibilité, que je vais vous citer, parce que c'est quand même un grand moment d'horreur. Il a dit, sur le compte pénibilité, je n'aime pas le terme, donc je le supprimerai, car il induit que le travail est une douleur. Ben oui, monsieur Macron, je suis désolé. Peut-être que toi, ton travail dans une banque, c'était pas une douleur. Mais pour une certaine quantité de salariés, le travail reste une douleur. Et le compte pénibilité dit bien ce que ça veut dire. On peut pas le changer. Le terme a été bien choisi. C'est parce qu'effectivement, dans de très, très nombreux métiers, il y a un problème de souffrance au travail, de pénibilité. La santé s'abîme et bien évidemment, on a ces 1200 morts. Alors, je vais continuer avec l'horreur de ceux qui défendent le libéralisme, et toujours Macron qui dit « Le mot pénibilité ne correspond pas à ce dont nous avons besoin parce que le travail, c'est l'émancipation. » Putain, c'est tout était là. Le travail, c'est ce qui nous émancipe, nous rend plus grands, plus forts, plus beaux. Il n'a pas dit ça.
Non, et puis le travail rend libre était déjà pris. Hein.
Le travail rend libre était déjà pris. Alors, c'est Macron, il n'a pas le monopole hein, de ça. Le Pen, Fillon, Lassalle, tous les autres, là, ils sont pas loin de cette idée-là. Et on dira quand même que M. Mélenchon aussi, qui est de l'autre côté du champ politique, n'est pas totalement émancipé de ce qu'on peut représenter dans le travail. Hein. Il est assez proche aussi de l'idée que tout le monde doit avoir un travail. Même si on pourrait en discuter plus longuement et qu'il est certainement beaucoup plus ouvert que Macron, Fillon, Le Pen et les autres. Mais c'est pas non plus gagné. Et puis, voilà, on a parlé du travail. Je voulais revenir sur une toute petite info que j'aime bien donner parce que ça me fait plaisir. C'est des militants de la CGT qui ont démonté le compteur électrique du MEDEF de Montpellier dans la nuit de lundi à mardi. Donc on les salue, on les soutient et bravo. Ça s'appelle les mardis de la colère. Donc tous les mardis, ils essayent d'enlever un compteur d'un syndicat patronal de différentes régions de France. Donc là, ils étaient à Montpellier. Donc voilà, ils essayent de marquer le coup. Il faut savoir que ils rappellent toutes les problématiques liées à l'énergie. Alors là, c'est la CGT Mines Énergie à Montpellier, et notamment les travailleurs de l'énergie et ceux qui sont du service public dénoncent la disparition du service public de l'énergie. On l'a vu avec la création d'Enedis, là, qui remplace ERDF, qui était déjà avant au sein d'EDF. Petit à petit, il y a des destructions du service public de distribution de l'énergie, ce qui entraîne aussi une dégradation de l'accès à l'énergie pour souvent les plus pauvres et les plus précaires. Donc voilà, ils vont continuer comme ça, je pense, pendant des semaines et des semaines, toute la campagne à couper, à enlever des compteurs du côté du MEDEF.
C'est bien, tu termines par le mot MEDEF et nous allons poursuivre avec les profiteurs. Voilà, après avoir, on va faire le pendant avec les travailleurs et les travailleuses. On va parler des entreprises et des multinationales. On va parler d'abord de Lactalis. Lactalis, je rappelle, c'est le numéro un mondial des produits laitiers. Et la plupart d'entre nous, on a un produit Lactalis dans notre frigo.
Non.
Si. Bah, président, par exemple, qui hein, est un machin qui se démultiplie entre le fromage et le beurre. Roquefort, hein, eh oui. Roquefort Société, pardon, excusez-moi. Galbani, hein, par exemple, eh oui, tout. Lactalis, il faut se rendre compte que ça achète. Ça achète et c'est que ça aussi que ça grossit. Alors, comme Laurent vous le disait tout à l'heure, sept responsables sont allés faire coucou aux agriculteurs et aux entrepreneurs de la FNSEA. Ça, c'est dit. Et puis, deuxième chose, peut-être que vous avez entendu que le magazine Forbes a sorti sa liste, son classement des fortunes mondiales. Et donc, il y a un classement qui concerne la France, c'est la nouveauté de cette année. Et à la huitième place, en 2007, nous trouvons qui ? Le PDG de Lactalis, monsieur Emmanuel Beignet, le petit-fils du fondateur, huitième fortune de France. En 2013, sa fortune était estimée à 4 milliards 300 millions d'euros. Vous arrivez à suivre ? Je sais que c'est des gros chiffres. En 2017, Forbes nous annonce 11 milliards 300 millions d'euros.
Ah oui, il a en quelques années doublé sa fortune. J'espère que Ah bah, auditeurs si et auditrices, doublé, que votre salaire a augmenté de la même manière que le salaire, les revenus du président de l'Actalis.
J'ajouterais que son frère et sa sœur sont quatrième ex aequo de ce classement des fortunes de France. Donc globalement, la famille Lactalis, nous allons l'appeler comme ça, est bien positionnée avec le pognon en France. Alors évidemment, quand il y a une crise laitière en France, que nos agriculteurs se plaignent, à tort ou à raison, ça dépend de lesquels on est en face de nous, forcément ça passe pas bien, cette information, d'autant plus en pleine campagne électorale. Je vous rappelle, hein, 17 milliards de chiffre d'affaires, le groupe Lactalis, 75 000 salariés, 15 000 en France. Lactalis transforme 20% du lait français collecté auprès de 17 000 producteurs, donc une sacrée position de monopole, hein, quand même, il faut le dire. J'exagère un peu, vous allez me dire, mais enfin, on est quand même pas loin. C'est-à-dire que c'est eux qui font le marché du lait, hein, tout simplement, à Lactalis, dans les gens, dans les bureaux là-bas qui décident. Il faut bien le dire. Bon, face à ça, il faut le dire aussi qu'il n'y a pas trop de résistance. Hein. En Europe, la production laitière, on a mis fin aux quotas, on a libéralisé le marché. Et puis, on a surtout incité les producteurs de lait à produire toujours plus. Ce qui fait qu'évidemment, quand il y a beaucoup de marchandises et beaucoup de produits, qu'est-ce qui se passe? Ben, les prix baissent. Et ben tout ça, Lactalis est content parce qu'après, lui, il achète pas cher aux producteurs. Il peut faire ses petits fromages et ses petits beurres. Et puis, revendre tout ça après au supermarché et engranger des bénéfices. Donc, il y a des gens comme l'Humanité sur le site qui accusent le PDG de Lactalis d'avoir construit sa fortune sur la crise laitière et donc sur le dos des producteurs de lait. Je suis assez d'accord, je dois le dire. Je soutiens cet article, si, voilà, je vous le dis. Il faut savoir qu'il y a un économiste qui s'appelle Monsieur Philippe Chalmin, qui est universitaire à Paris Dauphine, président de l'Observatoire des marges et des prix. C'est un observatoire qui produit, qui confectionne un rapport consacré aux relations commerciales entre les enseignes de la grande distribution et les fournisseurs de l'agroalimentaire. Philippe Chalmin a envoyé un courrier le 28 mars dernier au président du tribunal de Rennes et au président du tribunal de Laval pour demander d'obtenir les comptes de Lactalis. Lactalis refuse tous transparence sur ses comptes. Donc, Monsieur Chalmin, il en a marre et il a bien raison. Et de quoi il... Pourquoi, Monsieur Chalmin, ça lui prend? Ça lui prend parce que depuis décembre, on a une loi Sapin 2 et qui est venue renforcer les sanctions contre les industriels de l'agroalimentaire qui ne veulent pas publier les comptes annuels. Monsieur Chalmin ayant les deux mains dedans avec son observatoire, et ben il a décidé de faire appel donc aux tribunaux pour obtenir ses comptes. Alors, si Lactalis ne répond pas, il peut y avoir une amende avec une astreinte qui peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires journalier. Tout ça, c'est j'y mets du conditionnel parce qu'en fait, c'est les tribunaux qui décident, hein, le tribunal de commerce. Donc ça peut ne pas arriver, reste que c'est quand même être les deux pieds dans le plat, parce que effectivement entre ceux et celles comme moi qui pensent que quand même il y a une fortune qui se fait de l'argent sur les producteurs de lait, qui sont critiquables aussi, hein, d'être entrés à fond dans cette surproduction, et puis ceux et celles qui aimeraient bien avoir un peu de transparence sur cette multinationale, c'est quand même assez intéressant. La seule fois où Lactalis a divulgué ses comptes, c'était en 2011, et c'était pour une affaire de rachat de Parmalat. D'ailleurs, Parmalat, ils sont toujours voilà, dans cette affaire, coincés là-dedans, Lactalis, c'est intéressant. Et on avait appris à l'époque que Lactalis allait très 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 bien. Et je vais m'arrêter pour le trait parce que sinon on en a pour deux heures. Donc voilà, ça c'est des petits profiteurs. Et puis on va revenir sur Lafarge, hein, vous savez, on avait parlé plusieurs fois, hein. On vous avait raconté donc les accusations contre Lafarge, hein, qui a financé indirectement, paraît-il, des groupes en Syrie. Et puis on avait raconté que Lafarge voulait se lancer dans la construction du mur de Monsieur Trump entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Et ben a priori ça énervait un petit peu des gens. Alors bon, il paraît que c'est une décision qui date d'avant. Moi, je veux bien croire. Toujours est-il que ce n'est pas Lafarge qui va fournir le sable de Paris Plage 2017 à Paris. Vous savez, c'est un machin sur les bords de la Seine. Il y a du sable, des parasols et puis des transats. Et puis, c'est censé amener la vie autre, les vacances au milieu de la ville. Eh ben, il y a eu une réunion mardi du Conseil de Paris, et donc le Conseil de Paris a décidé de se passer de Lafarge. C'était quand même une collaboration qui durait depuis 2002, donc il y avait quand même du partenariat. Là, c'est un peu brutal. Lafarge expliquait que il fournissait gratuitement à la ville de Paris le sable pour cette opération. Oui. Jean-Yves me regarde en clignant des yeux et en se disant oui, il y avait un tourloupe hein, dessous. Bah, il fallait savoir pourquoi une multinationale fait des cadeaux.
Bah, parce que ça leur faisait de la pub.
Ah, bah oui, entre autres. Très certainement. Et puis des nouveaux amis aussi. Non. Et puis des nouveaux amis hein, dans les politiques. Donc il paraît qu'à la place, il va y avoir de la pelouse. Voilà. Il va falloir un petit peu changer, mais c'est bien de changer. Et puis, ben voilà. Il fallait pas proposer de faire des trucs de petits fachos.
Mais juste à la plage, il n'y a pas l'herbe.
Non, oui, mais l'idée c'est de. Je pense que le terme est là, il existe.
Ok, non mais.
Moi je pense qu'ils ont raison de garder ce terme de Paris-plage parce qu'il est devenu symbolique de ce qui peut se passer l'été. Après, air-plage, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait plein de gens qui arrivent avec des joints si tu veux. Enfin, moi je sais pas, je me méfie à Paris avec les Parisiens, on sait jamais.
Après tout, ça serait peut-être plus sympa de repartir avec les pieds pleins d'herbe plutôt que les pieds pleins de sable.
Je sais pas, c'est marrant en même temps. Ouais. On peut faire croire.
Bon. Alors, on va aller du côté de la Tunisie. Alors, j'avais une info centrale et je me suis dit, je vais reparler de quelque chose que Jean-Yves a abordé dans son émission, qu'on appelle la causerie, je crois, qui est le dimanche à 22h. On va parler de Shams.
Ah oui.
Donc, puisque il y a eu pas mal d'affaires en Tunisie autour de l'homosexualité, notamment le cinéaste tunisien Karim Bellage, hein, qui a été arrêté le 13 mars dernier en compagnie d'un homme, donc il a avoué avoir eu des relations homosexuelles avec lui. Donc le juge d'instruction du tribunal de Tunis a alors ordonné un truc absolument horrible qui s'appelle un test anal, et il a émis donc un mandat de dépôt à leur encontre des deux amants. C'est Shams qui défend la communauté LGBTQ en Tunisie. Enfin, ils sont pas tout seuls, hein, mais enfin, ils sont pas très nombreux non plus. mais voilà, le test anal, c'est réalisé par des médecins qui sont plutôt complaisants hein, quand même, avec et qui humilient donc voilà, qui pour vérifier l'homosexualité, enfin qui a eu relation sexuelle homosexuelle en tout cas. Alors ça a fait quand même un petit peu réagir un peu partout dans le monde, d'ailleurs pas que à la causerie. Plusieurs artistes, des militants des droits de l'homme, des associations ont réagi face à cette énième arrestation pour des raisons d'homosexualité. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a l'association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Il y a alors il y a pas mal de gens du milieu du spectacle, puisque enfin du cinéma, puisque c'est un cinéaste. Il y a un réalisateur qui s'appelle Aladdin Slim, qui avait tourné un film qui s'appelle The Last of Us, qui s'est mobilisé aussi. Il y a une association tunisienne qui s'appelle Maoudjoudin, ça veut dire « Nous existons ». On comprend bien qui sont nous, voilà, parce que c'est pas facile en Tunisie d'assumer une autre chose que l'hétérosexualité. Il y a une réalisatrice franco-tunisienne aussi, Nadia Elfani, qui s'est mobilisée. Alors, pour revenir sur Shams, ce qu'ils ont fait, trois projets pour soutenir cette communauté qui est mise à mal en Tunisie et on va dire dans tout le Maghreb, même si la Tunisie c'est a priori quand même peut-être le moins pire dans le Maghreb pour la vie de cette communauté LGBTQ. Oui, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Alors d'abord un numéro de téléphone accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour que ben voilà, les personnes qui subissent un peu des problèmes, des contraintes, que qu'elles soient judiciaires ou autres, puissent chercher de l'aide, appeler à l'aide. Il y a aussi un documentaire hein, qui a été publié, qui montre des jeunes Tunisiens et des jeunes Tunisiennes qui racontent tout ce qui est lié à l'envers de l'homosexualité en Tunisie, c'est-à-dire le test anal, les prisons, les violences et les agressions qu'elles subissent, qu'ils ou elles subissent au quotidien, le mépris du gouvernement, enfin tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc voilà, le documentaire s'appelle « Au pays de la démocratie naissante », disponible sur la chaîne YouTube de l'association. On a l'impression que ça progresse un petit peu. Alors pour rappel quand même, le code pénal, alors dans la version, parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, ça existe dans les deux langues, hein, en arabe, le tunisien, le dialecte tunisien, et le français, la langue, l'ancienne langue du colonisateur, c'est l'article 230 qui punit la sodomie. Alors c'est dans la version française. Par contre, dans la version arabe, c'est pas la sodomie qui est punie, c'est les liens d'homosexualité féminine et masculine. Hein, comme quoi, ils sont des soucis de traduction. Parce qu'effectivement, là, on a souvent l'impression qu'ils s'acharnent un peu plus sur les homos hommes que femmes, parce qu'il y a cette notion de sodomie qui leur plaît pas du tout. Mais en fait, non, ils attaquent aussi, bien évidemment, les lesbiennes. D'ailleurs, il y a un exemple, hein, c'était une jeune femme qui avait été condamnée il y a 2 ou 3 ans à 6 mois de prison parce qu'elle avait un piercing au nombril et qu'ils avaient considéré que c'était une preuve que c'était une lesbienne. C'était pas mal quand même ça. Voilà. Bon, voilà, je voulais rappeler un petit peu ça. Ça avait été l'émission La Causerie en avait parlé. Et c'était le moyen de revenir, de rappeler qu'effectivement que la lutte pour le droit des homosexuels en Tunisie, hein, qui est un pays qui a une constitution, une nouvelle constitution qui va dans le bon sens, mais tout n'avance pas malheureusement à la même vitesse, notamment dans la conscience des Tunisiens et des Tunisiennes. Il faut quand même le dire aussi, c'est pas que l'État malheureusement. Et alors justement, il y a une mobilisation cette semaine en Tunisie. Ça a commencé lundi contre une circulaire qui date aussi de l'époque coloniale, qui interdit aux femmes, aux Tunisiennes donc musulmanes, de se marier avec des non-musulmans. C'est pas mal. Alors, il y a une astuce, bien évidemment, c'est que si une femme musulmane veut se marier avec un non-musulman, le futur mari peut se convertir, et dans ces cas-là, il devient musulman et il a le droit de se marier. Alors, ça a mobilisé une 60aine d'associations depuis lundi en Tunisie pour faire abolir cette circulaire parce qu'elle est d'abord en contradiction avec la nouvelle constitution, hein, qui prône la liberté de conscience et l'égalité entre les citoyens. Et puis surtout, il rappelle, ces associations, que en fait, ils considèrent d'office que les femmes tunisiennes sont musulmanes, mais en fait, elles le sont pas toutes. Et il n'y a pas, comme en France d'ailleurs, de preuve de la religion des gens. C'est pas écrit sur une carte d'identité. Donc voilà, ils essayent de lutter contre ces discriminations qui sont faites aujourd'hui voilà, sur les femmes, pour le coup. Donc voilà, une mobilisation qui a commencé lundi. Alors, ça marche en Tunisie, et c'est important, la Tunisie, parce que c'est un petit peu l'exemple, hein, dans le Maghreb. Donc si jamais il y a des avancées en Tunisie, eh ben ça va peut-être un jour permettre aux autres pays autour d'avoir aussi des avancées. Voilà. Et alors, pour terminer avec la Tunisie, puisque en même temps, aujourd'hui, voilà, on a ces infos, et aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, au Sénat, à Paris, il y avait une réunion sur la Tunisie. On se dit, bah tiens, ils vont parler des problèmes des homosexuels, ils vont parler des problèmes des discriminations sur les femmes musulmanes qui ne peuvent pas épouser des non-musulmans, etc. On s'est dit, oui, ils vont prendre le problème à cœur. Et en fait, bah, ils ont parlé du tourisme. Donc c'est triste quand même de voir ça. Il y a plein de soucis et ils parlent du tourisme parce qu'effectivement le tourisme a pris un coup en Tunisie. C'est la principale source de devises, hein, du pays. Et donc il y avait la ministre tunisienne du tourisme qui est venue faire une apparition. Et puis il y avait les parlementaires qui sont dans le groupe interparlementaire d'amitié France-Tunisie, mais qui sont des groupes dont le seul but c'est de faire du commerce, de parler du capitalisme. Alors certes, c'est très bien qu'il y ait du tourisme qui se développe en Tunisie, ils ont besoin de ça, ils ont une belle côte, ils ont du soleil, tout ce qu'on veut, mais ça serait bien qu'en même temps, et ce qui pourrait d'ailleurs rendre la Tunisie attractive, ben c'est que ça devienne une vraie démocratie, qu'il y ait une égalité des droits, quelle que soit l'orientation sexuelle. Enfin voilà, et malheureusement, les parlementaires n'ont pas eu envie d'aborder cette question. Triste un peu tout ça quand même.
Ben souvent les droits sont effacés au profit du capitalisme et de l'argent, quoi. Je me permets juste vite fait de faire une petite oui, info en plus, c'est... Shams, en fait, en Tunisie, justement, on lançait un magazine LGBT et que...
Ah oui, je voulais en parler, j'ai oublié, oui, t'as raison.
Bah, et que c'est pas rien, enfin, et qu'encore une fois, c'est des militants et militantes qui sont peu et peu nombreuses vraiment, mais qui continuent, etc. Et juste, quand même, parce que la police tunisienne, elle a une vision étriquée, quand même, des relations homosexuelles. On peut faire d'autres choses, hein, que de se sodomiser.
Oui.
Enfin bon, voilà. Je vous laisse la suite.
Oui, sauf que ça, c'est facile à démontrer à part un médecin, et du coup, c'est pour ça qu'ils se servent de cette humiliation, parce que ça reste à la fin, du coup, une humiliation.
Clairement. Hein.
Alors, on va revenir, on va parler encore du capitalisme. Là, on a fait un petit tour du côté de la Tunisie, mais on va revenir sur le capitalisme qui est bien content de, finalement de s'allier avec les pires pays à partir du moment où on peut faire de l'argent. Alors là, on va avoir deux tout petits sujets. Un premier autour d'une dénonciation de la part de plusieurs organisations. Donc, il y a l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, le CCF des Terres Solidaires, c'est le Comité catholique contre la faim dans le monde, un truc comme ça là. FAIR Finance France, la Fédération internationale des droits de l'homme, Solidaire, la CGT, etc. Qui ont, il y a beaucoup de gens dans ces organisations hein, qui ont publié un rapport sur les liaisons dangereuses, disent-ils, entre les banques et aussi les assurances françaises avec la colonisation israélienne. Alors, dans le rapport, il rappelle hein, la colonisation israélienne. Donc, elle se situe en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Hein, il respecte la légalité, c'est-à-dire l'existence de le droit à l'existence, bien évidemment, d'Israël dans les frontières de 1967. Mais tout ce qui est autour des frontières de 1967, c'est illégal au niveau du droit international. Et c'est ça qui est condamné par le rapport. Donc, ce qui rappelle, effectivement, notamment que depuis janvier, 6000 nouveaux logements sont en projet de construction. Toujours dans ces zones occupées illégalement par Israël. Et bah, il dénonce la participation des banques. Et je vais vous citer ces belles banques. Hein. Nous avons BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole avec sa filiale LCL, BPCE et sa filiale Natixis, qui est plus connue, AXA, qui investit aussi. Donc chacune de ces sociétés, en fait, interviennent souvent avec des participations minoritaires, de manière souvent directe et quelquefois indirecte, dans des banques ou des entreprises qui interviennent dans des colonies israéliennes. Mais elles le font consciencieusement, volontairement. Elles le savent, les infos sont bien évidemment connues. Donc, à travers ces participations, elles financent indirectement les installations de nouvelles colonies. Mais c'est pas tout. Elles interviennent aussi plus directement dans la colonisation, notamment à travers deux prêts. C'était le cas notamment d'un prêt de 288 millions d'euros par un consortium de banques. Alors là, on avait encore BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Natixis, à une entreprise qui s'appelle Israel Electric Corporation. Cette entreprise qui fournit du courant aux colonies. Donc en Cisjordanie essentiellement et peut-être à Jérusalem-Est aussi. Pourtant, les banques françaises et les groupes d'assurance comme AXA ont signé un plein de conventions internationales où ils disent qu'ils respectent les droits humains. Sauf que, comme tu le disais tout à l'heure Jean-Yves, face à l'argent, face au capitalisme, tout ça disparaît très très vite. Ils ont beau signer des trucs, ils oublient dans la minute. Donc, au niveau pratique, ça ne suit pas du tout. Alors, il faut rappeler aussi quand même que ces banques et ces compagnies d'assurance sont responsables, mais le gouvernement français aussi est responsable, puisque il ne fait pas pression sur ces banques, même si le Parlement vient d'adopter une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre sur les sous-traitants. Hein, alors, ce n'était pas lié à la colonisation israélienne, cette loi, mais lié à l'affaire aux Philippines de l'immeuble, de l'usine qui s'écroule avec des milliers de morts et avec Carrefour et puis je ne sais plus plein de groupes de vêtements qui étaient responsables qui faisaient travailler ces gens de manière indirecte évidemment et qui n'ont pas voulu reconnaître leur responsabilité. Donc cette loi elle les oblige à reconnaître leur responsabilité en tant que donneuse d'ordre. Et bien ça marche du coup aussi pour les banques hein, qui sont obligées de se soumettre. Et bien quand elles participent directement, ça c'est sûr, mais indirectement comme c'est le cas, elles en sont aussi responsables. Donc, ça serait maintenant à l'État de prendre en main les choses, puisque la loi a été votée, pour obliger ces belles banques à jouer le jeu un petit peu, de respecter les lois internationales et d'arrêter de soutenir la colonisation israélienne. Et la deuxième petite info, c'est un petit rappel, ça date un peu, mais c'est pour vous rappeler que toutes ces belles banques, ça va être pas mal les mêmes d'ailleurs, elles ont aucune conscience, on a vu, de protection des droits humains, ni de protection de l'environnement. On va vous rappeler l'histoire de la réserve Sioux à Standing Rock dans le Dakota du Sud. Donc ces Indiens s'opposent à un projet d'oléoduc qui menace leurs sites ancestraux et surtout les réserves d'eau. Le pipeline s'appelait le Dakota Access Pipeline, 1800 km, qui va transporter le pétrole de schiste extrait dans le nord du Dakota vers la côte est et sud des États-Unis. Et là, on avait des infos qui nous disaient que le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale figuraient parmi les banques qui ont accordé un prêt de 2,5 milliards à l'entreprise qui construit cet oléoduc. C'est pas mal quand même, hein. Et en plus, BNP Paribas, Crédit Agricole et Natixis financent également les deux firmes qui gèrent le projet, donc pas ceux qui, seulement ceux qui construisent, mais ceux qui gèrent, qui ont acheté la construction de cet oléoduc. Ça s'appelle Energy Transfer Partners et Energy Transfer Equity. Donc grosso modo, c'est presque 1 milliard d'euros que les banques françaises investissent dans cet oléoduc qui va détruire la vie de ces Indiens et qui potentiellement va détruire l'environnement. Elles sont pas belles, nos banques, hein ? Alors, toutes les banques que j'ai citées, si vous avez un minimum de conscience et que vous êtes encore à BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis, puis je ne sais plus lesquels j'ai cités au début, bah vous avez le droit de changer de banque. C'est possible dans le monde du capitalisme moderne.
C'est bien fait, le capitalisme.
Ouais.
On va parler un petit peu de culture, mais aussi d'argent. Oui, vous allez me dire, c'est vrai que les deux vont souvent ensemble, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire sur l'artiste pauvre qui serait un créateur, voilà.
Si, ben, y en a plein. Et ceux-là, on en parle moins déjà.
Oui, il y en a qui crèvent de faim, c'est vrai, mais bon, il y a aussi plein de gens qui travaillent petitement, hein, qui font partie d'une classe moyenne chez les artistes, chez les producteurs, il y en a qui vivent très bien aussi. Et là, nous allons parler de Mathieu Picasse.
Et c'est pas un artiste, lui.
Non.
C'est un capitaliste, lui.
Oui, c'est un homme d'affaires. Alors, pour vous rappeler, il est directeur général délégué en France de la banque Lazare. Hein, quand même.
Je ne l'ai pas cité, hein, cette banque, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit respectable non plus.
Hein. Je vous rappelle qu'il est l'un des actionnaires du groupe Le Monde, aux côtés de M. Xavier Niel et de Pierre Berger. Hein. Il est à la tête du conseil d'administration des Eurocaennes de Belfort. Je vous place le personnage, nous allons y revenir. Et il est le président propriétaire des nouvelles éditions indépendantes qui détient les Arocuptibles et Radio Nova.
Ah oui, il aime la musique un peu, lui.
Alors, c'est quelqu'un qui se présente comme un passionné de musique. A priori, ça a l'air plutôt vrai. Donc, il s'est fait plaisir, il s'est payé le festival Rock en Seine. Il se l'est offert.
Donc, Rock en Seine, c'est un festival qui était à vendre, en fait, on ne savait pas.
Alors, d'après François Missonnier, qui est un des créateurs du festival en 2003, il y a un projet qui se porte bien, mais a priori, l'équipe est arrivée aux limites. Donc là, on sous-entend les limites financières et qu'il y avait besoin d'une autre participation, si vous voulez, pour pouvoir se développer. Donc, est-ce que ça veut dire devenir plus gros ? Ça, c'est une des questions. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui, hein, ce rachat de Rock en Seine. C'est donc les nouvelles éditions indépendantes. La holding de Mathieu Picasse, sa holding personnelle, hein, bien évidemment. J'ai moi aussi une holding personnelle qui a donc racheté le festival. L'idée, c'est de renforcer vite ses investissements culturels, il faut bien l'entendre comme ça. C'est un homme d'affaires, évidemment, qui aime a priori la musique, mais ça reste un homme d'affaires. Alors, il paraît que c'est le point de départ, je cite, d'une branche événementielle, ce qui va s'appeler LNEI, comme les nouvelles éditions indépendantes, Live, LNEI Live. Ça va regrouper le festival Les Inrock et Les Nuits Zébrées, l'autre festival de Radio Nova. Et puis donc, ben, va s'ajouter Rock en Seine dans ce panel de propositions festivalières. C'est François Missonnier qui va rester directeur de Rock en Seine. Mathieu Picasse a fait savoir que la prochaine édition va appuyer au bon endroit, au niveau tarifaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions tarifaires favorables, une politique tarifaire favorable, ce sont les mots exacts que je vous cite, pour les plus jeunes. Bon, ça, c'est un peu l'idée de garder les subventions, mais peut-être que je suis pute, hein, allez savoir, mais je me dis, c'est un bon moyen, vous savez, quand vous faites un effort tarifaire pour un public spécifique, et en particulier quand vous le faites vers un public qui est éloigné de la culture, vous avez plus facilement du soutien. Là, je ne suis pas sûr que les jeunes sur un festival comme Rock en Seine soient forcément éloignés de la culture, mais après, il y a plein de jeunes différents, vous me direz. Donc, c'est quand même bien de faire des efforts. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a un gros marché du festival en France. On cite évidemment les Vieilles Charrues, qui est le plus gros gros festival en France où on cite Solidaise et puis le Hellfest qui
c'est les trois premiers, là.
A pris ces dernières années une ampleur absolument considérable. On sait que les festivals, ça fait de l'argent, ça fait tourner des groupes. Et quel que soit le festival, la France est le pays du festival de toutes sortes. L'été, vous avez toutes les petites communes rurales qui peuvent avoir un festival. Alors je vais mettre un bémol parce que les choses se sont un peu calmées ces dernières années. Il y a des subventions qui sont tombées, déjà il faut le savoir. Et puis un festival, c'est quelque chose de qui peut vite prendre l'eau. Je vais faire un jeu de mots un peu express et je l'avais pas préparé celui-là. Mais vous avez des festivals en France qui sont des festivals de plein air, qui sont des petites structures, parfois avec des équipes de salariés, mais aussi souvent avec des équipes de bénévoles. Et il suffit qu'il y ait une année comme il y a 4-5 ans où il n'y a plus tout le long, et ben vous tuez votre festival, surtout quand c'est un festival qui va durer un mois par exemple. Et ben l'année d'après vous n'avez plus l'argent, vous avez dû rembourser des gens, vous aviez de l'argent engagé. Donc il y a voilà, des festivals très très différents en France, mais c'est vrai qu'on a aussi des festivals qui sont énormes. Je veux dire, les Vieilles Charrues, c'est 280 000 spectateurs. Le Rock en Seine en 2016, c'était 110 000 personnes. C'est des rendez-vous absolument énormes. Moi, je trouve ça absolument gigantesque, trop gigantesque, je dois vous le dire. Ça, c'est ma vision du rassemblement collectif. Voilà, mais ces festivals sont des festivals qui nous renvoient à l'événementiel. L'événementiel, aujourd'hui, dans le spectacle et la culture, c'est ce qui fait vivre. Les compagnies de théâtre, les structures de théâtre qui font des saisons à l'année, elles se bataillent toute l'année pour arriver à faire vivre leur salle ou leur troupe ou leur ensemble de musique ou leur groupe de musique ou ce que vous voudrez, quelle que soit la forme. C'est aujourd'hui très très difficile d'arriver à exister sur une saison. On voit par exemple aujourd'hui un théâtre que j'aime beaucoup, comme le théâtre de la Croix-Rousse, qui fait beaucoup d'offres sur certains spectacles, parce qu'il y a des moments où dans l'année c'est plus difficile de remplir sa salle. Et on sait que par exemple sur certains domaines de spectacle à Lyon, après mai c'est un peu mort parce qu'on rentre dans la saison des festivals et là vous avez un public qui est capté et qui ne va pas finir les saisons dans les théâtres et les salles lyonnaises. C'est une réalité. Hein. Dès le mois de mai, on commence à arriver ces festivals. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'en France, on a évidemment ce spectacle subventionné, mais on a aussi ce qu'on appelle le théâtre privé. Et un théâtre privé peut être en SARL. On n'est pas forcément dans un fonctionnement de statut associatif. Donc, il y a des modes très différents, mais reste que le festival, ça reste quand même un bon plan quand on veut essayer de développer une activité comme Monsieur Pigas. Donc c'est un bon filon pour lui, a priori. Juste pour terminer, aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a le spectacle, c'est très partagé, c'est que vous avez deux conventions collectives dans le spectacle. Qui sont vraiment deux points très différents. Vous avez celle qu'on appelle dans le milieu, un peu d'une manière caricaturale, celle du théâtre privé, qui est en fait plusieurs conventions collectives qui ont fusionné en une seule, ce qui donne un machin avec tout plein d'annexes qui est absolument nul, il n'y a rien dedans, autant aller voir le code du travail. Et puis vous avez celle des compagnies dites subventionnées, elles ne s'appellent pas comme ça, mais là c'est à la base des compagnies ou des ensembles ou des groupes qui vont avoir, ou des structures, des théâtres, des lieux d'accueil, qui vont avoir de l'argent des collectivités territoriales ou de l'État, et les entreprises sont censées un peu normalement choisir leur convention collective comme ça, mais vous avez le droit de faire un petit peu des passages, parce que je vous le rappelle qu'une entreprise peut être subventionnée un jour et ne plus l'être le lendemain, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui va se passer de plus en plus, si jamais on a la droite ou l'extrême droite, il faut être clair.
Ou même Macron. Ah oui, c'est la droite. Excuse-moi, je me suis trompé. N'empêche que c'est assez rare. Les festivals sont souvent nés de la passion de certains qui sont montés. Ils ont grossi. Le Vieilles Charrues, c'est le cas. Le Hellfest, c'est largement le cas. Hein. C'est issu d'un petit festival. Et jusqu'à maintenant, les capitalistes n'étaient pas trop intéressés par ces gros festivals, qu'ils soient subventionnés ou pas. Hein, une fois qu'ils deviennent gros, ils sont très peu subventionnés. Hein. C'est le cas du Hellfest qui est quasiment.
Du moment que ta billetterie te fait vivre. Voilà. Pourquoi aller chercher les subventions?
Voilà, tout à fait. Mais là, ça veut dire qu'on rentre comme dans le système anglo-saxon où ça va être des gros groupes qui font ça. On a ça en Angleterre. Il y a un Download Festival où c'est un gros groupe qui essaye de s'implanter dans tous les pays pour avoir son festival dans tous les pays. Et le capitalisme est en train de s'emparer de ces grosses manifestations musicales d'été. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des passionnés qui montaient le truc. Et c'est plutôt inquiétant parce qu'après, on ne sait pas ce que ça va devenir si c'est plus des passionnés qui gèrent. Alors peut-être que Pigas, il est passionné.
Enfin, ça reste quand même le directeur général délégué en France de la Banque Lazare qui devient.
Oui, c'est ça.
Qui se paye quand même Rock en scène. C'est quand même. Je veux remettre.
Ça fait pas rêver, quoi.
Ensemble. Voilà. Bah, j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à s'éclater artistiquement dans ce qui leur plaît. C'est tout ce que je leur souhaite.
Allez, quelques petites infos radioactives maintenant. Cette semaine, on a fêté. Je ne sais pas vous, mais le 38e anniversaire du premier gros accident nucléaire mondial qui avait eu lieu à Three Mile Island en Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique.
Tu veux dire que tu
l'as
célébré plutôt que fêté en fait.
Je l'ai célébré, ouais. J'ai vomi. Ah ouais, c'est peut-être ça, remarque. Oui, gros accident, hein, le premier gros. Hein. Alors, il est classé 5 sur l'échelle de Richter des accidents. On ne dit pas l'échelle de Richter, hein, l'échelle des accidents, qui en compte 7. 7, c'est pour Tchernobyl ou Fukushima. 5, c'est quand même fusion du cœur. Alors, comme d'habitude, hein, l'accident, c'est le même que d'habitude. Les pompes du système de refroidissement s'arrêtent. Je pense qu'ils arrêtent le réacteur. On sait pas bien, en fait. Mais bon, ça suffit pas. Ça chauffe et ça pète. Donc, avec dégagement de la radioactivité dans l'air. Alors, ce qui avait été très intéressant à l'époque, c'est la panique générale. Les autorités n'annoncent pas les choses, le cachent. Ils font une conférence de presse au bout d'un moment et ils disent que non, mais il n'y a pas de souci. Puis après, quelques heures après, ils disent, ah bah si, il faudra évacuer les femmes enceintes et les enfants de la région. Donc 200 000 personnes quittent la région, c'est la panique générale, tout est bouché partout, c'est une catastrophe. Et puis voilà, les conséquences sont que voilà, le nucléaire va ralentir aux États-Unis, mais pas s'arrêter. Ouais, c'est le premier gros accident, c'était pour rappeler ça. Donc après, effectivement, on connaît les deux autres, hein, Tchernobyl et Fukushima en 2011. Alors, c'est avec fusion du cœur. Il faut savoir qu'en France, on a eu le nôtre, hein, c'est dans les années 60, sur un petit réacteur expérimental, enfin d'essai, qui a eu peu de conséquences parce que c'était un petit réacteur. Avec fusion du cœur, ben, tout le monde a des accidents comme ça. Malheureusement, ça tourne, et plus on a de centrales, plus il y a des risques, bien évidemment. Je vous avais parlé de Westinghouse il n'y a pas longtemps. Donc Westinghouse, grosse boîte américaine au départ, hein, de fabrication de centrales nucléaires. Les centrales nucléaires françaises sont issues de brevets de Westinghouse. Westinghouse a été racheté il y a de nombreuses années par Toshiba, et Toshiba est en grand danger financier à cause de Westinghouse. Donc ils ont mis Westinghouse en faillite. Alors c'est la loi des faillites aux États-Unis, hein, ça fait pas couler la boîte, ça permet de renégocier avec les créanciers et les clients pour essayer de sauver la boîte, hein. Mais c'est très très compliqué. Faut savoir que Toshiba a revendu une partie de ce qu'ils avaient, notamment ses activités semi-conducteurs qui leur permettaient de gagner beaucoup d'argent, mais ils ont fait ça pour pas couler. Tout ça parce qu'ils ont acheté Westinghouse à un moment où ça valait cher et maintenant ça vaut plus rien. Faut dire que Westinghouse, c'est un peu comme en France, Areva. Ils sont en train de construire deux centrales nucléaires et c'est une catastrophe. Comme Areva avec l'EPR à Flamanville ou la centrale en Finlande. C'est-à-dire qu'ils ont des années de retard, ça marche pas bien et c'est une catastrophe. Le nucléaire moderne, c'est compliqué. Alors, aux États-Unis, le nucléaire, c'est pas grand-chose en proportion. 9% de la production d'énergie et 19% de celle d'électricité. En France, l'électricité, on est aux alentours de 70%. Mais c'est quand même 99 réacteurs. Comme le pays est plus gros, il y a quand même 99 réacteurs. Donc c'est un gros gros truc. Ce dépôt de bilan, c'est pas simplement la filière américaine qui s'écroule, c'est symboliquement toute la filière nucléaire mondiale qui chute et qui rappelle qu'aujourd'hui c'est plus rentable. Faut dire que aux États-Unis, le nucléaire est quand même fortement concurrencé par le gaz, le pétrole, le charbon, tous les trucs bien polluants aussi, hein, comme le nucléaire, mais qui ont des coûts bien plus faibles. Donc là, c'est mal parti pour les deux centrales américaines. Alors, Greenpeace et puis d'autres ont demandé à Westinghouse d'arrêter ces centrales qui sont construites, qui sont à peu près à 30, 40, entre 30 et 40% d'avancée du chantier. Bah, c'est le moment d'arrêter, hein, d'arrêter les frais, puisqu'ils vont vendre de l'électricité qui sera pas rentable. Il y a quand même de grosses chances là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise internationale n'achète de nucléaire, n'achète d'entreprises qui fabriquent des centrales, n'achète d'entreprises qui gèrent des centrales. Les capitalistes ont compris depuis peut-être Fukushima que économiquement c'était pas bon. Donc si eux ont compris, il faudrait quand même que tout le monde comprenne. Ça serait quand même assez logique. Donc voilà. Alors faut savoir quand même que Donald Trump a fait un petit pas en avant pour le nucléaire aux États-Unis puisqu'il a autorisé un centre de stockage. Alors ça ne veut pas dire qu'il veut installer des centrales nucléaires, parce qu'il n'est pas complètement débile non plus, en tout cas au niveau économique, parce que sur le reste, si. Mais en fait, le problème, quoi qu'il arrive, qu'on arrête ou pas le nucléaire, ils ont des millions de tonnes de déchets nucléaires, il faut bien les mettre quelque part. Donc, ils relancent un projet dans les montagnes du Nevada, les montagnes du Nevada, projet qui date de 30 ans, un peu comme CIGEO en France, hein, qui est plus récent, mais et qui a une lutte énorme avec des militants qui sont arrivés depuis 30 ans à bloquer le projet. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, là, Trump l'a relancé. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est sur une mauvaise idée. Jusqu'à maintenant, les bateaux nucléaires, les sous-marins nucléaires, existaient que dans le monde du militaire. Alors, ils sont nucléaires pour deux raisons. Souvent, c'est parce qu'ils ont des ogives nucléaires, mais ça, c'est pas un souci. On peut avoir un char avec des ogives nucléaires et le char, il marche au pétrole. En fait, on dit qu'ils sont nucléaires parce que leur moyen de propulsion, c'est pas un moteur à gasoil, c'est un réacteur nucléaire qui fabrique de l'électricité. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était réservé aux militaires. Et là, les Russes développent le premier sous-marin nucléaire à des fins civiles. Et c'est inquiétant parce que le but, alors, c'est d'explorer l'océan, etc. Le problème, c'est que plus on répand le nucléaire, plus on répand les risques d'accidents. Hein, on sait qu'il y a des sous-marins qui sont coulés, nucléaires qui sont coulés, puis qu'on peut plus y aller parce que voilà, c'est trop radioactif. On augmente aussi le nombre de salariés qui prennent de la radioactivité. On augmente les risques, on augmente les déchets, etc. Donc c'est quelque chose qui va plutôt dans le mauvais sens que de développer ces sous-marins nucléaires civils qui certes ont une meilleure autonomie qu'un sous-marin à gasoil, mais qui potentiellement augmente beaucoup de risques.
Alors, rapidement, nous allons terminer. Excusez-moi, je me suis enroué. Nous allons terminer avec une info locale et piscine. Ça va sentir le chlore pendant quelques instants, je vous préviens. Alors, peut-être que vous vous souvenez, mais en juillet 2016, la ville de Lyon et notre bon sénateur-maire, empereur-roi de la métropole, monsieur Gérard Collomb, il n'y en a qu'un, avait décidé de se débarrasser de la piscine de Gerland. Hein, elle était vieille, moche, ça coûtait trop cher de la rénover. Et donc, la ville avait décidé d'inclure la piscine dans le bail signé avec le Loup Rugby. Je vous rappelle, le Loup Rugby, c'est GL Event. Le Loup Rugby a pris la place de l'Olympique Lyonnais au stade de Gerland. Et la piscine, franchement, le Loup n'en voulait pas. Et puis, il y a eu des pétitions, des oppositions chez les élus. Et puis finalement, en septembre... notre bon maire avait annoncé on allait peut-être récupérer la piscine. Eh ben, c'est fait, le conseil municipal de Lyon a validé la chose ce lundi. Nous récupérons donc cette piscine pour 3 étés, c'est-à-dire 2017, 2018, 2019. Alors, elle va nous être reprêtée gratuitement par le Loup.
Ah oui, parce qu'ils en gardent les... En fait, les droits d'usage.
Bah, il y a le bail. Alors, donc, bon, alors, j'imagine, ouais. Tu sais, en plus,
c'est
avec en vrai, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais enfin, ils vont rétrocéder à la ville de Lyon l'utilisation de la piscine sur l'été. Par contre, pour ce qui est l'utilisation des vestiaires, d'un terrain et des courts de tennis, là, la ville de Lyon va devoir payer 80 000 euros par été au Loup Rugby. Ah, bah ouais, mais le capitalisme, c'est le capitalisme, hein, c'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que du côté des Républicains et de l'UDI, on a beaucoup quand même gueulé, que c'était un peu du n'importe quoi, mais
c'est
finalement
vrai,
ouais, parce que ils ont voté, hein,
ils louent la convention, truc, hein. Ils louent le truc au Loup et le Loup reloue à la ville de Lyon.
Alors, voilà. C'est une convention, hein, c'est pas une location, mais voilà, mais enfin, ils ont quand même voté, hein, nos élus des Républicains de l'UDI, oui, voilà. Bon, Madame Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du premier arrondissement, hein, où se situe Radio Canut, a dénoncé l'amateurisme de Gérard Collomb. Bon, est-ce que c'est vraiment de l'incompétence ou est-ce qu'il se croit tout puissant pour pouvoir faire comme Mao et décider d'un grand bond en avant environ, ok, ouais, d'accord, c'est un peu une caricature, mais je veux dire, il décide qu'à un seul coup, on n'a plus besoin d'un établissement de piscine, on en manque déjà à Lyon, et puis qu'on va reconstruire une nouvelle. Alors, il y a quand même des gens qui ont dit, attends, côté pognon, quand même, ça va aller, tout ça, parce que bon, il c'est un peu notre empereur, quand même. Donc, il décide de faire des choses plutôt qu'une une autre, et puis finalement, il revient dessus, ou je sais pas, peut-être Kim Jong-un, ou je sais pas. J'hésite. En tout cas, en ce moment, Gérard, il soutient tellement Macron que, bon... C'est pas bien ce qu'il fait à la ville de Lyon, il est très 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 occupé. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle de récupérer une piscine en attendant de savoir ce qui se passe et peut-être effectivement d'en construire une nouvelle et de mettre les sous de côté pour qu'elle soit très très belle.
Et tu voulais soutenir Acrimed.
Oui, mais j'espère bien toi aussi, oui. Écoute, Laurent. Très très rapidement, juste pour dire que Acrimed a mis en ligne un appel à soutien. Acrimed recherche 60 000 euros et nous on aime beaucoup Acrimed. On vous rappelle que c'est à la fois un site web qui est alimenté quotidiennement et avec des articles très pertinents. Et puis c'est aussi un magazine hein, que vous pouvez lire. Et puis on vous rappelle que nous on aime bien recevoir Acrimed 69 dans notre émission. Donc vous pouvez soit donner, soit adhérer. Deux moyens de soutenir financièrement Acrimed et puis sinon vous pouvez relayer leur info, ce qui fait que peut-être vos potes, eux, ils ont des sous.
Alors, on va faire un petit agenda très vite avant de laisser la place à la petite cuillère. Alors, il y a pas mal d'infos. Alors, il y a des gens qui relancent Nuit debout Lyon. Alors bon, je sais pas quelle idée ils ont eu. Voilà, c'est donc vendredi 31 mars, donc demain. Et samedi, ils appellent ça le 32 mars, bien évidemment, pour reprendre le vocabulaire utilisé pendant Nuit debout, à 18h place Guichard, voilà, si vous voulez aller faire un tour. Samedi 1er avril, ou samedi 32 mars, vous l'appelez comme vous voulez, à 15h à la librairie La Griffe, il y a une rencontre avec Edjib Sidi Moussa, auteur de La Fabrique du Musulman, avec un essai sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale. Très intéressant, hein, puisque c'est vraiment une question qui est en train de nous pourrir la vie et qui notamment casse pas mal la lutte contre le racisme. Donc il va venir parler de tout ça. Et alors on sait que c'est difficile, on a vu quelques petites censures apparaître sur Rebellion sur ce débat-là. Ça fait pas consensus, mais c'est intéressant d'en discuter justement. Toujours samedi, et ça dure aussi dimanche, ça se passe à la Maison pour tous des Rancis, qui est rue Vendôme. Il y a la journée du logiciel libre, donc c'est de 10h à 18h30 samedi et de 10h à 18h. Plein de choses autour du logiciel libre pour apprendre, pour découvrir, pour discuter des débats. Samedi 1er avril, toujours 12h, Esplanade de la Grande Côte, un pique-nique des Ingouvernables, donc je sais pas qui c'est, mais ça, voilà, vous pourrez pique-niquer sur l'esplanade de la Grande Côte.
Après les Insoumis.
Après les Insoumis. Et pour terminer, ils en ont beaucoup parlé, l'émission d'Attaque avant nous, le 3e édition du festival Palestine en vue, qui s'appelle Exil cette année, puisque le thème cette année c'est autour de l'exil, vous l'avez compris. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de films, notamment 3000 nuits dont on avait parlé ici, hein, qui est un excellent film sur les prisonnières palestinienne. La soirée d'ouverture à Lyon, c'est le mercredi 5 avril au Cinéma Comédia à 20h avec le film qui s'appelle Ghost, à différents courants.